Masechet Betzah Daf Kaf Zayin. On commence Bezrat Hashem Daf Kaf Vav Amud Bet à la dernière ligne Amar Rabbi Zera. Amar Rabbi Zera Tashma. La Gemara ici vient ramener une preuve pour la question à savoir est-ce que Yesh Mukte le Chatzi Shabbat? Est-ce que on craint le Mukte pour un demi Shabbat ou pas? C'est-à-dire si à l'entrée de Shabbat c'était pas Mukte, ensuite il y a eu un problème, c'est devenu Mukte. Quand ensuite le problème était résolu, est-ce que c'est permis ou je dis non? Puisque c'était interdit à un moment donné pendant Shabbat, ça reste interdit jusqu'à la fin de Shabbat ou pas? Donc la Gemara ici vient ramener une preuve sur cette question, est-ce que c'est Mouktse ou pas? Donc Amar Rabbi Zera Tashma, viens écoute. Mipolin Vadashim, les fèves, les lentilles, on les cuit pendant Yom Tov. Da Poulin Vadashim et Ikara, avant de les cuire, Chazulakous, on peut les manger crus. Shadin ou Bekdera, quand on les a mis dans la marmite, Idrouleou, on ne peut plus les manger parce que c'est brûlant. Gamar Bishulayou, quand on a terminé leur cuisson, Chazuleou, on peut les remanger. Chazuleou, c'est-à-dire on peut pratiquement les remanger puisque c'est mangeable. Ça a cuit, ça s'est refroidi, on peut les manger. Donc tu vois que même une chose qui à un moment donné n'était pas mangeable tellement elle était chaude, dans cet exemple, eh bien, c'est pas mouxé ensuite. C'est pas mouxé, donc c'est la preuve qu'il n'y a pas de mouxé le Chati Shabbat. Il n'y a pas de mouxé pour un demi-Shabbat. La Gemara repousse la preuve en disant Amar l'Abaye, Ulta Mer est d'après toi, Tikshelar, qui dérode Alma, c'est pas la peine d'amener une preuve de Yom Tov, on peut cuire, amène-moi une preuve de tous les Shabbatot. Et ça serait, en fait, plus difficile encore à comprendre que ça. Parce que toutes les marmites, qui dérode Alma, les marmites en général, à l'entrée de Shabbat, Deastam, qui dérode Alma, Ben Hashmashot, en général, toutes les marmites à l'entrée de Shabbat, Ben Hashmashot, Rotroten, c'est brûlant. Tout est brûlé à l'entrée de Shabbat. Donc, on devrait l'interdire pour tout Shabbat. Parce que, selon tout le monde, même si tu dis qu'il n'y a pas de mouktsé pour un demi-Shabbat, mais si à l'entrée de Shabbat n'était pas mangeable, là, c'est sûr que c'est mouktsé pour tout Shabbat. Parce que si Ben Hashmashot est interdit, tout Shabbat est interdit. Et comment tu comprends alors que je peux manger, ou les Ourta, dit la Gemara, ou les Ourta Achlin al-Minayou, au soir, ça a cuit, ça s'est refroidi, tu peux les manger. Comment est-ce que tu as le droit de les manger? Puisque c'était pas mangeable, tellement c'était chaud à l'entrée de Shabbat. Donc, on devrait dire que c'était mouxé à l'entrée de Shabbat, c'est interdit pour tout Shabbat. Or, évidemment qu'on ne dit pas comme ça. Donc, de toute façon, on n'a pas de preuve de là. Parce que si tu vas bien une preuve des marmites brûlantes, pour mouxé à un demi à Shabbat, comme pour Yom Tov, on les cuit pendant Yom Tov au milieu de la journée, et tu voudrais m'amener de là une preuve qu'on ne craint pas ce mouxé, c'est pas possible de prouver de là. Parce que, d'après ta preuve, on devrait dire qu'il n'y a pas du tout de mouxé pendant Shabbat, même pour une chose qui était à l'entrée de Shabbat, brûlante et pas mangeable. Or, évidemment qu'on ne craint pas ça. On mange, même ce qui était brûlant à l'entrée de Shabbat. C'est que certainement, il faut donner une autre définition. El azilagmara. El agmarobide adam lokami bayalan. Si sa préparation dépend de l'homme, il n'y a pas de question. C'est-à-dire, si c'est pas mangeable tellement c'est brûlant, mais un homme peut s'en occuper, et il sait que ça va se refroidir automatiquement, ça ne dépend pas d'autres choses qui... Il n'y peut rien. C'est la normale. La normale, c'est que ça va se refroidir et il peut s'en occuper. Toutes ces choses-là, on ne craint pas le moukté. Donc non seulement si au milieu du Yom Tov, c'était brûlant parce qu'il a cuit et que évidemment ensuite, ça ne sera pas moukté, mais même dans le cas où à l'entrée de Shabbat, les marmites sont brûlantes, on ne craint pas non plus le moukté. Parce que il n'y a pas ici de Hesechadat, ça ne s'appelle pas Mouktsé, il ne l'a pas écarté de son esprit, puisqu'il sait bien que certainement ça va se refroidir. Ça s'appelle Gmaro Bide Adam. C'est lui qui s'en occupe. Et ça dépend de lui. Il sait bien qu'il n'y aura pas de surprise. Il n'y aura pas de surprise. Il enlève du feu, ça se refroidit. Par contre, Kikamibaya, là, notre question ne se pose que dans le cas où Gmaro Bide Shamaim. Si ça se termine, Bide Shamaim. Comme par exemple, les figues, il les a mises à sécher. Il ne sait pas s'il y aura du soleil, il y aura de la pluie. Il ne sait pas si ça va sécher, ça ne va pas sécher. Ça ne dépend pas de lui, il n'y peut rien. Une chose comme ça, c'est là où on se pose la question. Mais puisque au milieu de Shabbat, ce n'était pas mangeable, parce que ça s'est mouillé, et donc maintenant, il faut attendre que ça ressèche, et ça ne dépend pas de lui, ça dépend du ciel. Une chose comme celle-là, se pose la question, est-ce que c'est moukté ou pas? Ne me prouve pas des marmites brûlantes, ce n'est pas la preuve du tout. Si tu amènes une preuve de là, tu pourras aller même plus loin et prouver que même si à l'entrée de Shabbat c'était pas mangeable, ça sera permis ensuite. C'est impossible de cette preuve-là, elle est fausse. On sait bien que ce qui n'était pas mangeable à l'entrée de Shabbat, eh bien, reste moukté pour tout Shabbat. Donc, les marmites brûlantes ne sont pas la preuve, parce que les marmites brûlantes, comme on a dit, ne les a pas écartées de son esprit. Il sait bien qu'il peut s'arranger à ce que ça se refroidisse. Donc, on n'a pas de preuve des marmites brûlantes. Pour un moukté qui dépend, en fait, de la température et du ciel, ces choses-là, revient la question, est-ce que je crains le moukté pour un demi-Shabbat? En disant, puisqu'à un moment donné, pendant Shabbat, c'était pas mangeable, pendant Yom Tov, c'était pas mangeable. Alors, même si ensuite, ça s'est résolu, ça reste moukté, ou bien, non. De là, on n'a pas de preuve. La Gemara raconte une nouvelle histoire. Rabbi Yehuda Nesia, avalé à Obucha. Rabbi Yehuda Nesia, qui était un descendant de Rabbi Yehuda Nassi, il avait un Bechor. Il avait un premier-né, un veau ou un agneau. Shadré le Kamed Rabbi Ami, il a envoyé chez Rabbi Ami pour vérifier si son défaut était un défaut qui va le permettre ou pas. Il voulait le donner à manger à des Kohanim. Savar de l'Oem Irzeye. Rabbi Ami ne voulait pas vérifier le veau parce qu'il craignait Rabbi Shimon qui interdit dans la Mishnah de vérifier des défauts pendant Yom Tov. Amar le Rabbi Zrika avait été Rabbi Irmiya. Rabbi Zrika ou Rabbi Irmiya lui a dit Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Quand nous avons une machloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, elle est comme Rabbi Yehuda, donc il est permis de vérifier son défaut pendant Yom Tov, comme Rabbi Yehuda de notre Mishnah, qui est permis de descendre dans le puits pour vérifier le défaut du Bechor. Hadar Shadre le Kamed Rabbi Yitzhak Nafra. À nouveau, il a envoyé chez Rabbi Yitzhak Nafra pour vérifier le défaut. Savar de l'Alemir Zeye, Rabbi Yitzhak Nafra non plus ne voulait pas le vérifier pendant Yom Tov. Amar le Rabbi Irmiya avait été ma Rabbi Zrika, et à nouveau on lui a fait la remarque, Rabbi Irmiya ou Rabbi Zrika, Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, alachaki Rabbi Yehuda, donc l'alachale comme Rabbi Yehuda qui permet de vérifier pendant Yom Tov, de vérifier donc le défaut. Amar le Rabbi Abba, maïte amal o shevaktin ou le Rabbanan, Rabbi Abba lui a dit, mais pour quelle raison, Rabbi Abba a demandé à Rabbi Zrika, pour quelle raison tu ne laisses pas les Rachamim, les mains avadouf d'Ake Rabbi Shimon? De faire comme Rabbi Shimon qui interdit la vérification des défauts pendant Yom Tov. Laisse-les, ils veulent pas vérifier. Pourquoi tu as besoin de leur faire la remarque à chaque fois que la halakha est comme Rabbi Yehuda? Amarle, alors Rabbi Zrika lui a dit, à Rabbi Abba, Ve'atma biyadar, et toi qu'est-ce que tu tiens ici? C'est pas évident que la halakha est comme Rabbi Yehuda. Tu penses autrement? Pourquoi veux-tu que je les laisse faire comme Rabbi Shimon qui interdit la vérification pendant Yom Tov des défauts? Pourquoi faire comme Rabbi Shimon? Tout le monde sait qu'Alakha est comme Rabbi Yehuda. Amar, il lui a répondu, Achi Amar Rabbi Zera, Alakha qui Rabbi Shimon. Rabbi Zera a déjà tranché l'Alakha comme Rabbi Shimon. Et donc, c'est pour ça que moi, Rabbi Abba, je te fais la remarque à toi, Rabbi Zrika, de ne pas empêcher les Chachamim de faire tranquillement comme Rabbi Shimon, qui interdit la vérification des défauts pendant Yom Tov. Laisse les faire comme Rabbi Shimon, même si en général, Alakha est comme Rabbi Yehuda. Ici, moi, j'ai appris de Rabbi Zera que la lachal est comme Rabbi Shimon. Donc, laisse-les faire. Amar Mandehu, un des élèves de la yeshiva, a dit « Ezke ve'esak le'atam » que j'ai le mérite de monter là-bas en Eretz Israël pour rencontrer Rabbi Zera personnellement. « Ve'agmera le'shmat amipoumé demara » et j'aimerais bien apprendre cet enseignement-là de Rabbi Zera qui a tranché la lachal comme Rabbi Shimon de la bouche de son auteur. De Rabbi Zera lui-même. C'est-à-dire, ici nous avons un chidouche au nom de Rabbi Zera qui voudrait dire la halakha est comme Rabbi Shimon. C'est un peu étonnant. J'aimerais bien entendre de sa propre bouche qu'est-ce qu'il en pense. Kisalik Le'atam, quand il est monté effectivement en Eretz Israël, Ashkechel Rabbi Zera, il a rencontré Rabbi Zera. Amar Ale lui a demandé, Amar Mar halakha est Rabbi Shimon, est-ce que mon maître a dit que la halakha est comme Rabbi Shimon ici qui interdit de vérifier les défauts pendant Yom Tov? Amar Ale lo. Non, je n'ai pas dit ça. Ana Mistabra. J'ai simplement dit, il semblerait que la halakha devrait être comme Rabbi Shimon. Midekhtane et Matnitin, d'où j'apprends ça? Du fait que dans notre Mishnah, on incitait au nom de Rabbi Shimon Omer, Kol She'en Mumonika Mibod Yom, si on n'a pas reconnu et décidé déjà que c'est un défaut avant Yom Tov, En Zeminem Mouchan, on ne peut pas, ce vol-là n'a pas été préparé avant Yom Tov, on n'aura pas le droit de le trancher pendant Yom Tov. Vektane la Bebraïta, et cette même halakha a été citée dans la Braïta, Bilshon Chachamim, au nom de Chachamim Omrim. On ne dit pas que c'est Rabbi Shimon qui l'a dit. Pourquoi tu me dis Chachamim Omrim? Shmamina Mistabra Kevate. Sûrement, c'est que la halakha est comme lui. C'est pour ça qu'on peut citer son avis au nom de Chachamim tout simple. Tout simple, sous-entendu, c'est une halakha qui est reconnue, comme quoi on ne vérifie pas les défauts pendant Yom Tov. Donc, il semblerait que la halakha devrait être comme Rabbi Shimon. Mais ce n'est pas que je sais que la halakha est comme Rabbi Shimon. Donc, Shmamina Mistabra Kevate. Il semblerait dire que l'alakha elle doit être comme Rabbi Shimon. Maï Aveala, qu'est-ce qu'il en est de cette question? Est-ce que l'alakha est comme Rabbi Yehuda ou comme Rabbi Shimon? Amar Rabbi Yosef Tashma. De Talia Be'ashle Ravrevé. Cette question-là, elle est Talia Be'ashle Ravrevé. C'est une expression qui veut dire, Talia, elle est accrochée Be'ashle Ravrevé avec des grandes cordes. C'est-à-dire, il y a sur qui s'appuyer ici. Il y a des grands chachamim qui ont déjà tranché ici l'alakha. Mais Amar Rabbi Shimon ben Pazi, Amar Rabbi Yehoshua ben Levi, Amar Rabbi Yossi ben Shaul, Amar Rabbi, Mishum Ka'ala Kadisha de Yerushalayim, au nom de l'assemblée Kadisha, sainte de Yerushalayim. Rabbi Shimon, Vachaverav, Amrou Alachak Rabbi Meir. Rabbi Shimon et ses amis, Rachid dit ici, Rabbi Shimon ben Menasya, Vachaverav, on dit Alacha comme Rabbi Meir. Alors la Gemara s'explique. D'abord, comment tu peux me dire que cette assemblée-là, qui est à la Kadisha de Birushalayim, cette assemblée a dit au nom de Rabbi Shimon ben Menasya, qui pense comme Rabbi Meir. Comment ils peuvent dire une chose pareille? Amrou, est-ce qu'ils ont dit au nom de Rabbi Shimon, Vea inukshishe minetuva, ils étaient bien plus vieux que lui, bien plus anciens que lui. Et la Shitat Rabbi Meir Amaroua, c'est vrai qu'ils étaient plus âgés que Rabbi Shimon ben Menasya, la Keala Kadisha d'Yerushalayim, mais ils n'ont pas dit en son nom. Ils ont dit que ce que dit Rabbi Shimon ben Menasya, qui est un jeune chacham, ça va comme Rabbi Meir, qui est un ancien chacham. Donc ce n'est pas qu'ils ont dit en son nom, ils n'étaient pas ses élèves. Le Keala Kadisha d'Yerushalayim n'était pas l'élève de Rabbi Shimon ben Menasya pour dire une halakha en son nom. Simplement, eux, en entendant que ce jeune chacham qui est Rabbi Shimon ben Menasya, il interdit la vérification des défauts pendant Yom Tov, ils ont dit, bien, il en ressort que Rabbi Shimon ben Menasya, il pense comme Rabbi Meir. Qu'est-ce que dit Rabbi Meir? Donc, Ela Beshitat Rabbi Meir Amaroua, ils ont dit ça selon l'avis de Rabbi Meir, enfin, comme l'avis de Rabbi Meir. Detnan, Ashochet et Abechor, Vachakariret Mumo. La Mishnah là-bas traite le cas de quelqu'un qui a fait la shrita d'un Bechor avant même de vérifier son défaut. Il n'avait pas le droit de le faire. Il a vu un défaut. Il a décidé, avant de montrer à un chacham, que c'est un défaut qui permet le Bechor. Il s'est permis de lui faire la shrita. Ensuite, après la shrita, il a appelé un chacham, un mumre, un compétent pour lui montrer le défaut. Et effectivement, il a été d'accord que c'est un vrai défaut qui permet le Bechor. Rabbi Yehuda Matir et Rabbi Meir Omer, donc Rabbi Yehuda déjà il permet le Bechor, mais Rabbi Meir n'est pas d'accord avec ça, il dit « Ho'il velishrat shelo al pi mumche » Assur, puisque au moment de la shrita, il a fait la shrita avant de demander à un mumche, un compétent, c'est interdit, il ne peut pas profiter de sa shrita. Alma kasava Rabbi Meir, donc tu vois que Rabbi Meir y pense. Riyat Bechor lav ke riyat trefa. La vérification d'un Bechor n'est pas comme la vérification d'une trefa. C'est-à-dire comme ça, riyat Bechor mechaim. La vérification du défaut d'un Bechor doit se faire de son vivant, alors que Riyat Trefa, la Hashrita, on peut vérifier les Trefotes même après la Shrita. C'est-à-dire, nous avons un problème sur la bête, une question. Le Bechor, est-ce qu'il a un défaut qui le permet? La Béma habituelle, une Béma simple. Et on a décidé qu'elle est Trefa, ou plutôt il y avait une Shela si elle est Trefa ou pas. On a décidé que ce n'est pas Taref. Et on s'est précipité à faire la shrita avant même de montrer la shéla. Après la shrita, on vient montrer à un chacham, on lui dit « qu'est-ce que tu en penses, c'est taref ou pas ?» Il dit « non, c'est pas taref ». Alors, en ce qui concerne la trefa, il n'y a pas d'importance si tu l'as fait de son vivant ou après sa shrita. Tu peux appeler, même après la shrita, un mumre qu'il vienne voir, est-ce que c'est taref ou c'est pas taref. Entre-temps, tu as fait la shrita, c'est pas grave. Mais pour le Bechor, Rabbi Meir dit « attention, il fallait le montrer de son vivant ». Au Chacham, et pas après sa mort, pas après la Shrita. Si tu l'as montré après la Shrita, il reste interdit. Donc Rabbi Meir ici, il donne beaucoup plus d'importance à la vérification d'un Bechor qu'à celle d'une Trefa. La vérification d'un Bechor, c'est un sujet très important, c'est une question très importante, et donc il faut le faire de son vivant. On ne va pas faire la Shrita sans savoir qu'un mumre, un chacham compétent, était d'accord qu'effectivement c'est un défaut. Tandis que pour la trefa, il n'y a pas de problème, tu peux faire entre-temps la shrita. Et puisque tu donnes tellement de considération à cette question-là du défaut du Bechor, à tel point que tu interdis sa shrita avant de le faire, avant de vérifier, eh bien certainement cette vérification-là doit être interdite pendant Yom Tov, parce que ça s'appelle vraiment une réparation. On est en train ici de faire un jugement très important, qui est une réparation du béchor de la bête. Du béchor, à savoir s'il est permis ou interdit. C'est ce que dit la Gemara maintenant. Donc je reprends Alma Katsava Rabbi Meir, donc je vois que Rabbi Meir y pense. Riyat Bechor Lav ke Riyat Trefa. La vérification du Bechor n'est pas comme celle d'une Trefa. Riyat Bechor Mechaim. La vérification du Bechor doit se faire de son vivant. Riyat Trefa Le'achar Shrita. Mais la vérification d'une Trefa ne se fait qu'après la Shrita. Umina. Et de là même tu apprends autre chose aussi. Riyat Trefa Kulubi Yom Tov. Vérifier une question de Trefa peut se faire même pendant Yom Tov. C'est-à-dire, on peut faire la Shrita pendant Yom Tov et ensuite vérifier est-ce que c'était taref, ce problème-là que la bête avait, ou bien ce n'est pas taref. Puisque, ou même de son vivant, c'est pareil, puisque cette vérification-là n'est pas considérée comme un jugement très important, c'est pas vraiment une réparation, ça peut se faire pendant Yom Tov. Tandis que, Reyat Bechor Merev Yom Tov, la vérification d'un Bechor ne peut se faire qu'avant Yom Tov, puisque tu lui accordes tellement d'importance. À tel point que tu dis, ne fais pas la Shrita tant que tu ne l'as pas montré. Tu as fait la Shrita, c'est interdit. Même si ensuite on a vu qu'effectivement, c'est un défaut. Donc cette question-là, qu'il faut savoir si c'est un défaut ou pas, c'est un sujet très important qui ne peut pas se faire pendant Yom Tov. Tout ça pour nous dire quoi? Que Rabbi Shimon ben Menassia, qui interdit la vérification du Bechor pendant Yom Tov, il pense comme Rabbi Meir, qui dit que le Bechor ne se vérifie que de son vivant. Donc on compare Rabbi Shimon ben Menassia, Rabbi Meir, en disant, voilà, Rabbi Shimon, le jeune Rabbi Shimon ben Menassia, pense comme l'ancien Rabbi Meir. La Gemara, elle veut dire de là, que puisque nous avons deux grands Tanaïm qui pensent comme ça, Rabbi Shimon ben Menassia, et d'ailleurs il y a un appui très fort qui est Rabbi Meir, finalement Rabbi Yehuda qui permet la vérification pendant Yom Tov, se retrouve unique contre deux Tanaïm, Yachid verabim, alachak et rabim. On a, comme qui ici, tranché que la vérification est interdite pendant Yom Tov. C'est plus Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, alachak et Rabbi Yehuda, ça devient déjà deux Tanaïm, ou même trois, qui sont Rabbi Shimon ben Menassia, Rabbi Meir, qui pensent que la vérification est interdite pendant Yom Tov. C'est ce qu'on a dit, Talia be'ashle ravreve. Cette alachala, elle est suspendue avec des cordes grandes, qui sont ces trois Tanaïm-là, tous ces Tanaïm qui pensent que la vérification est interdite pendant Yom Tov. Amar le Abaye, Abaye a dit à Rabbi Yosef, Atu, Hatam, Beroin, Moumin, Plige, est-ce que tu compares Rabbi Meir avec Rabbi Shimon? Est-ce que la discussion de Rabbi Meir, à propos du Bechor à qui on a fait la Shrita avant de le montrer à un Moumre, est-ce que c'est une question si on peut vérifier pendant Yom Tov ou pas? Atu, est-ce que Hatam là-bas, Beroin, Moumin, Plige, ils sont en discussion si on peut voir les défauts pendant Yom Tov? C'est pas ça du tout leur question. Biknas a Plige. La question là-bas, elle n'est que si on lui fait une amende ou pas. Dehamar Rabba Bachanam Arabi Ochanan. La Gemara s'explique. Bedukin Sheba'ain, si le défaut était dans l'œil, un certain défaut dans l'œil, eh bien, Kulalma le Plige de Asour. Tout le monde est d'accord qu'après la Shrita, on n'a pas le droit de vérifier. Mishum de Mishtanin, car ça se change. De son vivant, il paraît être un vrai défaut. Après sa mort, tu vérifies son œil et tu as l'impression que ce n'est pas un vrai défaut. Puisque ce défaut-là, il se change avec la mort, eh bien, c'est une certaine pellicule, une certaine couche qui couvre, en fait, qui cache un peu sa vue, qui couvre l'œil. En tout cas, ce défaut-là, il ne peut pas se vérifier après la Shrita parce que ça trompe. On se trompe. Ça, c'est tout le monde est d'accord. Leur discussion n'est que sur un défaut du corps, c'est-à-dire un défaut vraiment physique, il y a son oreille qui s'est coupée et elle ne va pas pousser après la Shrita. C'est un défaut qui va rester, qui ne va pas se changer avec la Shrita. Est-ce que si j'ai fait la Shrita avant de le montrer à un Moumré et qu'ensuite le Moumré vient et dit « mais bien sûr que c'est un défaut », est-ce que c'est suffisant ou non? Rabbi Meir Savar Gazrinan, Moumin Shebagouf, Atu, Moumin Shebaïn. Rabbi Meir, il dit « on décrète et on interdit un défaut clair physique à cause du défaut de l'œil. Puisque le défaut de l'œil ne peut pas se vérifier après la Shrita, aucun autre défaut non plus ne se vérifiera après la Shrita. On ne peut pas faire ça après la Shrita. Donc Rabbi Meir, en fait, c'est une amende qu'il fait à celui qui a osé faire la Shrita avant de montrer au Chacham, au Moumré, et donc il lui interdit. Mais Rabbi Yehuda, ça va le Gazrinan. Rabbi Yehuda, il dit non, on ne décrète pas, puisque tu peux vérifier après la Shrita, tu peux le faire. Donc finalement, Rabbi Meir ici n'est pas en train de poser la question, il n'est pas en train du tout de dire qu'on ne doit pas vérifier ça pendant Yom Tov. C'est pas ça la question, c'est pas est-ce que c'est important ou pas important, ça se fait, c'est tellement important que ça ne peut se faire que de son vivant. Non, c'est pas ça ce que Rabbi Meir dit. Rabbi Meir dit, écoute, on t'a interdit de faire la Shrita, tu as osé la faire, tu n'en profiteras pas. Point. Rabbi Meir sera d'accord que s'il pensait que ça avait déjà été montré à un chacham et qu'à cause de ça, ensuite, il a fait la shrita, on ne va pas lui interdire d'en profiter. Donc, puisque Rabbi Meir, finalement, ici, il n'est qu'en train de dire qu'il faut faire une amende à celui qui a osé faire la shrita, on n'est pas rentré dans la question si ça peut se vérifier pendant Yom Tov ou pas. C'est un autre sujet. Ce n'est pas que Rabbi Meir accorde une importance majeure à cette question-là, si c'est un défaut, c'est pas un défaut. C'est une chose qui ne peut se traiter qu'avant Yom Tov. C'est pas comme ça qu'il faut comprendre. Pas du tout. Rabbi Meir lui dit, écoute, a priori, on ne vérifie pas ça après la Shrita. Tu as osé le faire. Tant pis pour toi, tu as perdu ton Bechor. Yom Tov, peut-être que de son vivant, on pourrait vérifier le Bechor de son vivant, même pendant Yom Tov. On n'a pas de preuve que Rabbi Shimon pense comme Rabbi Meir. Amar Rav Nachman Bar Yitzchak. Donc ici, avant Rav Nachman Bar Yitzchak, ici on est en train de dire Rabbi Meir Savar Gazrinan, on a vu ça, Moumin Shebagou Fatou Moumin Shebain, Rabbi Da Savar le Gazrinan. Celui-là, Rabbi Dan ne décrète pas, c'est-à-dire ce qui se change après la Shrita ne se vérifie pas ensuite, ce qui ne change pas après la Shrita peut se vérifier même après la Shrita. Amar Rav Nachman Bar Yitzchak Batitinamidika, on pourrait d'ailleurs le déduire, le prouver de notre Mishnah. Dektane, de la Mishnah, en fait pas la nôtre, c'est la Mishnah de Maseret Bechorot à propos de Rabbi Meir. Rabbi Meir Omero, il venishrat shelo al pimumche asur. Rabbi Meir, comment est-ce qu'il explique sa raison, pourquoi il a interdit le Bechor, puisque tu as fait la Shrita sans montrer à un mumche, sans montrer à un chacham, c'est interdit. Shmamina knas avudeka kanis shmamina. Donc tu vois que ce n'est qu'une amende, c'est pas vraiment la lacha. Rabbi Meir, lui, il dit, on t'a interdit, tu as osé le faire, tu n'en profiteras pas. C'est pour ça que Rabbi Meir, il justifie sa lacha en disant, puisque la shrita était faite sans le montrer à Moumché, c'est pour ça que c'est interdit. Sous-entendu, il n'avait pas le droit de la faire, il l'a faite, il n'en profitera pas. Donc finalement, Rabbi Meir ne rentre pas dans la question de Yom Tov du tout. Ami Vardina, la Gemara raconte sur un chacham qui s'appelait Ami Vardina. Ami Vardina, donc Ami c'est son nom, Vardina rajeunit comme une rose. Il était joli comme une rose. Ou bien, il venait d'un endroit qui s'appelait Vardina. Chazé Bukhra Debe Nesia Hava. Il était celui qui avait l'habitude de vérifier les défauts des Bechorot de Benesia, du grand de l'exil. Beyomata Valava Chazi. Yom Tov, il ne les vérifiait pas. Atouvamrou et le Rabbi Ami. On est allé le dénoncer à Rabbi Ami en lui disant, regarde, Ami Vardina ne vérifie pas les Bechorot pendant Yom Tov. Amarlou Shapir Kiavid de l'Ochazi. Rabbi Ami leur a dit, il a raison de ne pas vérifier pendant Yom Tov. Eni, est-ce que c'est comme ça? Vers Rabbi Ami Gouf et Chazi. Rabbi Ami lui-même vérifiait pendant Yom Tov les défauts des Bechorot. Donc pourquoi est-ce qu'il donne raison à Ami Vardina? Ce sont deux personnes, à ne pas confondre. Nous avons ici Ami Vardina et Rabbi Ami. Ami Vardina ne vérifiait pas les Bechorot pendant Yom Tov chez le Benessia. Et Rabbi Ami a dit, il a raison. Rabbi Ami a dit que Ami Vardina a raison de ne pas les vérifier. La Gemara demande, mais Rabbi Ami lui-même les vérifiait. Donc, Gouf et Chazé, répond la Gemara, non. Rabbi Ami ne les vérifiait pas pendant Yom Tov. Rabbi Ami, qui Chazim et moi l'avait Chazim. En réalité, il les vérifiait avant Yom Tov, déjà. On tourne la page. Ou bien Yom Tov, Shiyu, Lekame, Shayel. Simplement pendant Yom Tov, il questionnait le propriétaire, Hechi Avaouda. De quelle manière est tombé le défaut? Puisque si c'est lui qui a causé le défaut, on ne va pas lui permettre d'en profiter de faire la shrita. Il faudrait attendre un autre défaut. Et c'est ça ce qu'en fait Rabbi Ami faisait pendant Yom Tov. Le défaut lui-même, il le vérifiait avant Yom Tov. Quand il voyait que c'est un vrai défaut, il ne disait pas encore la halakha, il ne tranchait pas encore la halakha, il ne disait pas à son propriétaire que c'est un vrai défaut, il attendait de le questionner pendant Yom Tov. Donc, au Yom Tov, Shuile Kameshayel, Echi Ava Uvda, comment ça s'est passé? Qui a, comme histoire, d'Aou Gavra Daït et Boucha les Kamed Rabba. Un homme est venu avec un Bechor chez Rabba. A Pania de Maale Yomatava. Le soir de la veille de Yom Tov. Donc vraiment à l'approche de Yom Tov, il a montré un défaut, c'était urgent. Avayativ Rava, Vekachaïf Reche. Rava était assis, il est en train de se laver la tête. Dalien et Vechaziel et Moumé. Il a levé ses yeux pour vérifier le défaut. Il a vu le défaut. Amar Lei lui a dit, Zilaïdna Vetalemacha. Va-t'en aujourd'hui et reviens demain. Kiatalemacha, quand il est revenu le lendemain, Amar Echi Avaouda, raconte-moi comment le défaut est tombé. Amar Lei Abacha Diansar et Bergisa Dehutsa. Il a dit, c'est très simple. Il y avait de l'orge d'un côté de la barrière, et lui, le Bechor, était de l'autre côté de la barrière. C'est une barrière de pleine de, d'épines, en bois. Quand le Bechor voulait manger, il a sorti sa tête pour manger l'orge de l'autre côté de la barrière. Ayel Reche, il a rentré sa tête là-bas, ou partait où t'allais s'y fouter. Et il y a un bois qui lui a ouvert la lèvre, qui lui a déchiré la lèvre. Amal Edilma Adgar Matle, il a dit peut-être que c'est toi qui as provoqué, c'est toi qui as fait exprès tout ça. Tu as fait exprès de mettre l'orge de l'autre côté de la barrière de manière à ce qu'il se déchire la lèvre pour le permettre. On sait qu'on soupçonne les Kohanim de causer des défauts à l'ordre Horod pour pouvoir en profiter. Amar Lello, il lui a dit non, c'est pas moi qui ai fait ça, j'ai pas fait attention du tout, ça s'est passé comme ça, sincèrement. Donc de cette histoire-là, on voit que le défaut était vérifié avant Yom Tov, et pendant Yom Tov, on questionnait le propriétaire pour certifier que ce n'est pas lui qui a causé le défaut. Ou mena temra de grama asur, et d'où sais-tu dire que de provoquer un défaut s'interdit aussi? Netanya mum lo yebo. La Torah interdit de mettre un défaut dans un korban. En li elashe lo yebo mum. Je ne sais que uniquement d'interdire de faire un défaut dans le korban. Mais d'où je sais que de provoquer, c'est interdit. Minayin sheloi grom lo l'idée de varacher. D'où je sais qu'il est interdit de lui provoquer un défaut. Sheloi avi batek od vela viani achlo al gabe ozen. Il serait interdit même, d'où je sais qu'il est interdit de lui mettre de la pâte ou une figue sur l'oreille, que des chiavois quel avitlen, ou pour que vienne le chien et qu'il l'arrache. Il va voir la pâte, il va voir la figue et il va lui arracher l'oreille en même temps, le chien. D'où je sais que c'est interdit. Et avec ça, il va gagner qu'il aura permis son Bechor grâce à ce défaut-là. Talmud Omar Kol Moum. La Torah dit tout défaut ne sera pas en lui. Amar Moum, Amar Kol Moum. La Torah dit le défaut, et non seulement le défaut, mais même tout défaut. Donc même de provoquer, c'est interdit. De causer le défaut, c'est aussi interdit. Celui qui a causé le défaut, eh bien, il n'aura pas le droit d'en profiter. Les Chachamim lui ont interdit de profiter de ce défaut-là. Et c'est ça la chose qui se questionne pendant Yom Tov, mais pas la vérification elle-même du défaut. Mishnah suivante. Bema Shemeta. Une Bema qui est morte pendant Yom Tov, c'est Mukte. Lo Yazizé, Namim Koma, il ne peut pas la bouger de sa place. Umaseh Veshaviot Rabbi Tarfon Alea. Et c'était l'histoire, on a posé la question sur Rabbi Tarfon. On a posé la question sur ça à Rabbi Tarfon. Est-ce que cette Bema-là qui est morte, on peut la bouger ou pas? Et autre question, on va à la Chala Shinitmet. Une Chala qui a été prélevée de la pâte. Donc c'est le prélèvement de la Chala de la pâte. Et c'est devenu Tamé. Donc, on ne peut plus la donner au Kohen. Est-ce qu'on peut la bouger ou c'est Mukhtir? Menichnas le Bet Amidrash Vesha'al. Rabbi Tarfon est rentré au Bet Amidrash pour poser la question. Vamroulo les Chachamim lui ont répondu. Lo Yezizem Mimkomam. On n'a pas le droit de les bouger de leur place. C'est Mukhtir. Le Matnan Stama de Loka Rabbi Shimon. La Gemara dit que notre Mishnah, qui craint le Mukhtir d'une Bema qui est morte pendant Yom Tov, par exemple, eh bien, elle ne va pas comme Rabbi Shimon. Détanya Rabbi Shimon Omer. Rabbi Shimon ne craint pas le Mukhtir. Qu'est-ce qu'il dit dans la Braïta? Mechatrin et Tadlouin l'ifne à Behema. On a le droit de couper les Dlouin, la courge, devant la Behema. Même si elle peut pas, la Behema ne peut pas manger la courge avant de la couper tellement c'est grand, je viens la couper, on dirait une réparation, je rends la courge une chose mangeable, c'est quand même permis. Vet anevela l'ifne à Klavim, on peut couper aussi d'ailleurs la Nevela, le cadavre, la bête morte devant les chiens. Ça, c'est Rabbi Shimon qui permet qu'il ne craint pas le Mukhté. Rabbi Uda Omer, il n'est pas d'accord avec ça, Rabbi Uda, il craint le Mukhté et dit, Imla itane vela nerev Shabbat, Asura. Si elle n'était pas morte avant Shabbat, c'est interdit. Donc, tu vois que notre Mishnah qui interdit le Mukhté de la Nevela, du cadavre, va comme Rabbi Uda et pas comme Rabbi Shimon. Réponds à la Gemara, Flutema Rabbi Shimon, même si tu veux dire comme Rabbi Shimon, Modé Rabbi Shimon de Balé, Chaim Shemetu, Shasurin. Rabbi Shimon est d'accord que si la Bema était en pleine forme à l'entrée de Shabbat et de Yom Tov, et qu'elle est morte ensuite en plein Shabbat, eh bien, c'est interdit. parce qu'il n'avait vraiment pas la conscience de les manger. Il n'avait pas l'intention, il ne pensait pas du tout à cette béhéma-là. Et donc, puisqu'elle est venue comme ça en surprise, cette névé-là, en fait, elle est morte en surprise, eh bien, Rabbi Shimon est d'accord que c'est interdit. Hanicha, le Gemara dit cette réponse-là, elle va bien. Les mar baramima mishme de Rava. De Amar, elle va bien selon mar baramimar, qui a dit au nom de Rava. Modaya Rabbi Shimon de Balechaim Shemetu, Shasurin. Rabbi Shimon est d'accord. Rabbi Shimon qui a permis la névé-là, il est d'accord que si, avant Shabbat, elle était en pleine forme et elle est morte ensuite, c'est interdit. Shapir, ta réponse, elle est valable. Notre Mishnah peut aller comme Rabbi Shimon en disant qu'il ne s'agit pas de n'importe quelle névéla. Ce n'est pas une vieille vache qui est morte. C'était une vache qui était en pleine forme et tout d'un coup, elle est morte. Là, Rabbi Shimon est d'accord que c'est Moukté, effectivement. Et là, les Mar Béré de Rav Yosef, Mishmé de Rava. Mais selon Mar Béré de Rav Yosef, qui a dit au nom de Rava, Rabbi Shimon est en machloket même sur une béma en pleine forme qui est morte. Chez Moutarim, il pense que c'est permis. Maïkel Mema, comment tu vas résoudre notre Mishnah qui interdit le moukté du Nevela? Comment tu vas la résoudre comme Rabbi Shimon qui permet la Nevela qui est morte pendant Shabbat, même si elle était en pleine forme? Répond la Gemara Targouma Zehiri. Zehiri interprète à Mishnah. Bebehemat Kodashim. Il ne s'agit pas de n'importe quel béma. Tu sais pourquoi c'est moukté? Parce que c'est une béma de Kodashim, c'est une béma de Korban. Puisqu'on n'a pas le droit d'en profiter et qu'il faut l'enterrer, on ne peut plus la racheter après sa mort. On ne peut racheter un Korban qui a eu un défaut que de son vivant, mais pas après sa mort. Ici, après sa mort, on ne peut plus le racheter, il faudrait l'enterrer. Là, c'est vraiment Moukté, même selon Rabbi Shimon. Et donc, notre Mishnah, elle peut aller même comme Rabbi Shimon. Et la Gemara, elle soutient cette réponse en disant, Dikanami, on pourrait d'ailleurs le déduire de la Mishnah aussi, Dektane Ale, car on a enseigné dessus dans la Mishnah, Ve'ala Chalash et Nitmet. Donc, les deux questions qui ont été adressées à Rabbi Tarfon sont celle d'une Béma qui est morte et la Frachat Chala qui est devenue Tamé. Donc, on peut comparer l'une à l'autre. Ma Chala Kdisha, de même que la Chala, elle était sanctifiée, Af Béma de Kdisha. Il s'agit aussi d'une Béma qui était consacrée à un Korban. Donc, les deux ça, ont de la Kdusha. Et c'est là où Rabbi Shimon interdit, enfin c'est là où notre Mishnah l'interdit, ça peut aller même comme Rabbi Shimon, parce qu'il sera d'accord dans une Béma Kdosha, puisqu'elle est interdite, c'est Moukté. Et là, la Gemara se retourne maintenant dans l'autre sens. Pourquoi est-ce que notre Mishnah ne parle que d'une Béma Kdosha, d'un Korban qui est mort? Et la Tama de Kdisha, on devrait déduire de là, dans l'autre sens. Ce n'est que parce qu'il y avait de la Kdosha que tu me dis que si elle est morte pendant Yom Tov, c'est interdit. Hadechulin Sharia. Si elle n'avait pas cette Kdusha-là, ça aurait été permis. Donc, on voudrait prouver d'ici que notre Mishnah permet une Béma qui est morte pendant Yom Tov. Anicha le Mar Bered Rav Yosef Mishmed Rava. Ça va bien selon Mar Bered Rav Yosef qui a dit D'Amar Chaloukaya Rabbi Shimon Af et Balechaim Shemetu. Chez Moutarine, que Rabbi Shimon est en Machloket même sur une Béma en pleine forme, en pleine santé, qui est morte tout d'un coup, elle est quand même permise. Shapir, notre Mishnah, on peut la comprendre selon Rabbi Shimon, c'est-à-dire notre Mishnah qui nous laisse sous-entendre que si ce n'était pas une Béma de Korban, elle aurait été permise, même quand elle est morte soudainement pendant Yom Tov, alors on pourrait dire que notre Mishnah, elle va comme Rabbi Shimon, qui permet même une Béma qui était en pleine forme à l'entrée de Yom Tov, si elle est morte ensuite pendant Yom Tov, elle est permise. Et là, les Mar Bar Amimar Mishmede Ravade Amar, mais selon Mar Bar Amimar qui a dit que non, Modaya Rabbi Shimon de Balechaim Shemetu Shasurin. Rabbi Shimon est d'accord que si elle était en pleine forme, elle est morte tout d'un coup, que c'est interdit. Maïka Emar, comment tu vas comprendre notre Mishnah? Pourquoi est-ce que notre Mishnah ne parle que d'une Béma de Korban qui est morte, qu'elle est interdite? Même une Béma de Choulin, si elle est morte tout d'un coup, elle devrait être interdite, même selon Rabbi Shimon. Répond la Gemara. Donc en fait, c'est une objection contre Mar Baramimar qui pense que Rabbi Shimon permet une Béma qui est morte soudainement. Répond la Gemara, de quoi il s'agit dans notre Mishnah? Elle était déjà en danger de mort, elle allait mourir. La Béma déjà, elle allait mourir. Et puisque avant Yom Tov déjà, on savait qu'elle risquait de mourir, alors elle était malade, elle était vieille, elle allait mourir. Selon tout le monde serait d'accord ici, que puisqu'il s'attend à ça, alors elle n'est pas mouktée. Elle n'est pas mouktée si elle est morte pendant Yom Tov. Et donc, c'est pour ça que notre Mishnah, elle permet, si c'était pas un korban, ça aurait été permis. Donc ici, Rabbi Shava comme Rabbi Shimon qui permet une nevela qui est morte pendant Yom Tov. Et même si tu veux dire comme celui qui interdit d'après Rabbi Shimon si elle était en pleine forme à l'entrée d'Yom Tov, on dira ici qu'elle était malade. On pourra expliquer que notre Mishnah parle d'un cas où la Bema était malade, et donc selon tout le monde, d'après Rabbi Shimon, aussi bien Mar Bar Amimar que Mar Bar Bered Rabbi Yosef, les deux sont d'accord dans une Bema qui était malade à l'entrée, avant Yom Tov, qui elle, si elle est morte pendant Yom Tov, Rabbi Shimon va la permettre si ce n'est qu'elle est une, si ce n'est qu'elle est une Bema de Korban. C'est-à-dire, notre Mishnah qui l'interdit, c'est que parce que c'est un Korban. Si c'était pas un Korban, elle aurait été permise. Pourquoi elle aurait été permise? Comme Rabbi Shimon. Ah, tu me diras, mais Rabbi Shimon, il est d'accord que si elle est en pleine forme, elle est interdite, si elle est morte soudainement. Réponse, on ne parle pas de ça. On parle d'un cas où elle était déjà malade, et donc tout le monde est d'accord que Rabbi Shimon a permis si ce n'est pas une Bema de Korban. Mishnah suivante. En nimnin ala Bema le chatrila biyom tov. On n'a pas le droit de se compter sur une Bema a priori pendant Yom Tov. La Gemara va expliquer ce que ça veut dire. Aval nimnin ala merev Yom Tov. On aura le droit par contre de se compter sur la Bema avant Yom Tov. Veshochatin ou mechalkin benehem, et on fera ensuite la shrita, on se partage la BMA entre eux. La Gemara explique ce que ça veut dire. Mai en nimnin. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne se compte pas sur la BMA. Amar avidamar shmuel, en poskin damim nechatrila la BMA biyom tov. On n'a pas le droit de fixer un prix, a priori, sur une BMA pendant yom tov. Ça s'appelle du commerce qui est interdit pendant Shabbat et yom tov. Donc il s'agit de quelqu'un qui arrive, yom tov est arrivé, il n'a pas de viande pour yom tov. Il vient chez le boucher, il lui dit, écoute, vends-moi une BMA. Vends-moi une BMA, je lui fais la shrita, je m'en servirai, je la mangerai pendant Yom Tov. Et il faudrait fixer le prix maintenant. Ça, c'est interdit. Hechi Avid, comment on fait alors? Puisque c'est interdit de fixer un prix, il prend la BMA pendant Yom Tov, il lui fait la shrita, il la mange. Après, le lendemain, il lui dit, je te dois 500. Et le boucher lui dit, tu me dois 1000. Comment on va savoir? La BMA n'est plus devant nous pour savoir son prix. Donc, comment on se fixe le prix dorénavant, avant la vente? Amar Rav, répond la Gemara, Mevishte behemot ou mamidan zetelzo. Il prend deux vaches et il les met une à côté de l'autre. Le Omer Zoukezou. Il dit, tu vois cette vache-là que tu veux prendre maintenant pour Yom Tov, elle est comme l'autre. Après Yom Tov, on regarde l'autre, combien elle coûte l'autre, c'est ça le prix qu'il doit lui payer. Tainanamiachi, la Gemara soutient cette réponse-là par une braïta qui dit, Lo Yomar Adam Lachavero, un homme n'a pas le droit de dire à son ami, Areni Imcha Besela. Je t'achète, je te compte-moi sur ta BMA de la viande pour un sela. Arenim Rabeshtaim, ou deux sela, deux pièces. Ça s'interdit. On ne parle pas de monnaie, on ne parle pas d'argent. Avalomar le Arenim Ralemertav et les Chichudravia. Mais il peut lui dire, écoute, viens, on fait moitié-moitié, ou bien un tiers, deux tiers, ou un quart, trois quarts. Puisqu'on n'a pas fixé de prix, de cette manière-là, c'est permis de faire pendant Yom Tov le partage. Donc, de la même manière qu'on a dit là-bas que les associés qui viendraient acheter de la viande et qu'ils veulent pas, ils n'ont pas le droit de parler de prix, ou bien quelqu'un qui achète du boucher, il lui dit, écoute, donne-moi une partie de la BMA, il n'aura pas le droit de dire pour quel prix. Il peut lui dire qu'un pourcentage de la BMA, un quart, un tiers, une moitié. De la même manière, quand il veut acheter toute la BMA, il n'a pas le droit de fixer un prix, il pourra que comparer cette BMA à une autre en disant, regarde, tu prends celle-là pendant Yom Tov, demain, on se rencontre et on va la comparer à l'autre. Voilà, elle est là devant nous, la deuxième, et c'est la même chose. Les deux bémotes, c'est la même chose. Le lendemain, il vient et il décide en fonction du prix de celle qui est restée vivante, de la deuxième, combien il lui doit pour celle qu'il a pris pendant Yom Tov.